Bonjour, bienvenue sur cette chaîne Mola et sur cette série dédiée à l'impact. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Elsa Dacosta, qui vient d'écrire À nos cœurs vaillants, chez Kalman Levy. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Bonjour Elsa.
Bonjour Arnaud.
Pourquoi avoir écrit ce livre ?
Ah, quelle bonne question. Bah, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait, j'étais assez perdue quand je cherchais une définition de l'intérêt général dans nos institutions. Donc, ça m'a donné envie de rechercher s'il existait quelque part une espèce de fonction un peu administrative qui nous permette de nous référer à cette définition de l'intérêt général. Et la deuxième, c'est que je m'apercevais aussi que lorsqu'on convoquait l'engagement, tout de suite, nous avions en tête des grandes figures, Martin Luther King, Nelson Mandela, et quelque part, ça rendait presque un peu inaccessible pour le commun des mortels que je suis de pouvoir être engagé. Donc je me suis dit qu'il fallait que j'enquête pour voir si finalement l'engagement, c'était pas quelque chose de tout à fait pragmatique et d'assez simple à mettre en place.
Du quotidien au jour le jour.
Absolument, du quotidien au jour le jour, et puis en fait, sans s'apercevoir que nos actions peuvent être des actions engagées et qu'elles ont un impact, peut-être pas immédiat, mais que soit dans le temps, soit vis-à-vis d'autres personnes, voilà, elles ont une signification assez particulière et plutôt au service de l'intérêt général.
Alors quand on écrit un livre comme celui-ci qui est un manifeste, ouais, il y a une certaine légitimité à avoir pour l'écrire.
C'est mieux.
Donc votre parcours, on vous connaît, pour ceux qui vous connaissent, vous êtes directrice générale d'Ashoka.
Absolument.
Pour peut-être nous dire un ou deux mots sur Ashoka, mais ce qui m'intéresse surtout, et avant qu'on arrive sur Ashoka, c'est quel est votre propre parcours dans l'engagement. Et qu'est-ce qui vous a amené à ça aujourd'hui ?
En fait, je crois que j'ai toujours été engagée sans le savoir. Souvent, les racines, Arnaud, elles sont culturelles, familiales, et on est baigné dans cette liquide amniotique, quelque part, de l'engagement. Moi, je suis le produit d'un couple mixte, Portugal-France, avec un père immigré portugais qui a fui la dictature salazariste, qui auparavant avait été engagé dans la guerre d'Angola, donc avait vécu cette guerre de colonisation du Portugal en Afrique, et en revenant complètement brisé par ce qu'il avait vu là-bas, voyant la richesse des colons portugais et la pauvreté de son propre pays quand il y est rentré. Et puis d'une mère qui a vécu ses 12 premières années de vie au Maroc, et qui a vécu aussi la chute du protectorat français au Maroc, et qui a dû précipitamment rentrer aussi en France. Donc il y a une forme de politique qui s'est toujours en fait infiltrée dans l'histoire familiale, avec ces deux exils assez forts, et finalement ce sentiment d'être jamais vraiment à son endroit principal, ou en tout cas d'avoir une nostalgie de cet endroit-là. Et moi, j'ai vécu avec ça en cherchant toujours le mien. Et il se trouve que voilà, c'est dans un territoire d'engagement que j'ai pu le développer. Donc il y a pas, voilà, pour moi, ça a été assez logique de continuer à m'investir là-dedans. Et puis la chose que j'ai remarqué quand même à la maison, c'est que l'information et la contemporanéité de nos enjeux, la presse était extrêmement présente en fait à la maison. Donc ça nous permettait d'être toujours connectés à ce qui se passait dans le monde. Donc cet appétit et cette gourmandise et cette indignation permanente que je peux avoir sur beaucoup de sujets, et encore plus maintenant, vous imaginez bien, fait que ça m'a toujours plus ou moins poussé à être engagé de manière assez naturelle, quoi.
Alors ça je coupe là-dessus parce que c'est hyper intéressant. C'est l'idée de curiosité.
Ouais.
On crée de l'engagement d'abord en s'informant et en se créant une espèce de conviction, ou en tout cas des combats. C'est ça l'idée ?
Pour moi, la première manière d'être engagé, c'est déjà de s'intéresser au monde dans lequel on vit. D'ailleurs, c'est ce que je dis dans le livre, c'est que finalement, l'indifférence au monde, c'est le plus grand des renoncements quand la maison est en train de brûler. Donc ça passe pas forcément par prendre des panneaux, aller en manifestation, mais déjà comprendre ce qui est en train de se passer, ce diagnostic qu'on pose, et pour pouvoir créer une forme d'épiphanie aussi pour chacun d'entre nous. Donc oui, évidemment. Et puis j'ai été journaliste, vous me demandiez de parler un tout petit peu de mon parcours. J'ai été journaliste pendant près de 10 ans. Donc c'est un sujet qui m'a forcément animée, que de voir la manière dont le monde s'organisait, dont la manière dont les humains essayaient de faire société ou n'arrivaient pas à faire société. Donc oui, ça pour moi, ça part de là. L'information, c'est l'état zéro de la fusée de l'engagement, clairement.
Et l'étape 2 ?
Alors, l'étape 2, il y en a beaucoup. Donc, ensuite, vous me direz, c'est facile. Pourquoi vous n'êtes pas engagé dès le départ, après vos études? Parce que, en fait, je ne me suis pas engagée de manière ostensible tout de suite, puisque j'ai suivi un parcours un peu dicté aussi par les injonctions sociétales et puis la volonté de réussir que mes parents pouvaient aussi injecter en moi. Donc, j'ai fait une école de commerce. J'ai travaillé dans le marketing pendant près de 10 ans, dans des grandes entreprises. Donc, ça me donne aussi un poste d'observation assez intéressant sur l'économie, parce que je l'ai côtoyé pendant 10 ans. Moi, j'ai travaillé dans des grosses entreprises, Ubisoft, Yves Saint Laurent Couture, AOL France, VentePrivée.com. Et puis après, j'ai été piquée par le virus de l'entrepreneuriat, ne trouvant pas ma place dans ces entreprises-là, parce que du haut de mes bientôt 50 ans, ça se faisait pas tellement quand on sortait d'école de commerce de faire des sauts comme ça tous les 3-4 ans, de changer d'entreprise, comme si j'étais instable, puis toujours des créations de postes, toujours dans des environnements différents. Donc ça a nourri non seulement cette fameuse curiosité, mais le fait que je me suis extrêmement mise en question en me disant, bah, en fait, je suis bonne pour rien parce que je m'ennuie toujours un peu partout. Donc peut-être que la meilleure des solutions, c'est de faire moi-même créer mon propre espace de travail, donc en créant des entreprises. Et donc j'ai créé une première entreprise en 2012 qui était un site d'avis consommateurs sur la puériculture, les livres et les jouets. Je venais d'avoir mon troisième enfant, donc j'étais assez experte, puisqu'il faut être experte et légitime pour certains sujets. Là, en l'occurrence, je l'étais pas mal, mais j'avais la volonté de créer ce site d'avis consommateurs pour retourner en fait les discours marketing, faire en sorte que ce soit les citoyens qui imposent en fait un rythme qui soit différent aux sociétés qui produisaient ces produits-là, pour faire en sorte que, ben voilà, on infléchisse les plateaux de la balance. Et donc je considérais que ce site était assez citoyen. Donc ça a bien marché, à tel point que j'ai été repérée par une chaîne de télévision et qui s'appelle France 5, et dans une émission qui s'appelle Les Maternelles, et j'ai été recrutée comme chroniqueuse pendant près de 4 ans. Et là, on touche un autre de mes rêves, puisque je ne voulais pas du tout à la base faire une école de commerce et puis faire du marketing et puis créer des entreprises. Je voulais être journaliste, mais mon père m'en avait empêchée en me disant « Les journalistes, ma fille, c'est tous des crèves-la-faim, donc tu feras une prépa HEC et une école de commerce, ce sera très bien ». Bon, il n'avait pas complètement tort à certains endroits, parce que je l'ai pratiqué après. Néanmoins, je me retrouve là à toucher du doigt mon rêve pour la première fois, et je suis embarquée dans cette émission qui est fantastique, qui est vraiment une émission d'accompagnement, de guidance sur des grands sujets de société.
D'engagement.
Bien sûr, d'engagement, clairement. Et puis, vous savez, en télévision, on a chacun des rôles. Bon, moi, ce n'était pas vraiment un rôle de composition, puisque j'étais la petite engagée de la bande qui avait une chronique où, justement, je parlais du bisphénol A dans les biberons, je parlais du cyberharcèlement, je parlais du féminisme, des genres, etc. Donc, tout ça faisait que j'avais ce caractère qui commençait à ressortir encore plus fortement, qui était l'engagement. Et puis, les attentats de Charlie Hebdo sont arrivés, nous ont évidemment tous foudroyés. Et moi, je me suis dit, en fait, je vais pas assez loin. J'ai cette entreprise, c'est super. Je suis à la télé tous les matins dans une émission qui est extrêmement bienveillante. Mais en fait, quand on voit deux gamins français qui débarquent dans une rédaction et qui flinguent cette journaliste, il y a quand même un truc dans le pacte républicain qui est cassé. Et je veux jouer ma part aussi là-dedans, et je veux expliquer, je veux permettre de comprendre un peu tout ça et de le documenter. Donc là, à 40 ans, je fais un master en journalisme. Donc je reprends mes études, je vends mon entreprise et puis je décide de me consacrer pleinement au journalisme. Et puis après, je vous passe les détails. Je fais 6 mois chez BFM. Je me retrouve vraiment à travailler chez BFM en 2016, où c'est un moment dramatique en fait pour la fracture française. Ce sont les attentats de Nice, Saint-Étienne-du-Rouvray, Magnanville. Enfin voilà, il y a vraiment une année extrêmement lourde après les attentats évidemment du 13 novembre. Enfin, Charlie et le 13 novembre. Et puis je me dis, en fait, il faut qu'on crée des sujets d'adhésion, parce que les récits, c'est aussi une forme d'engagement. Quand je vous disais tout à l'heure, en fait, s'informer, c'est déjà le premier pas pour s'engager. Ceux qui sont producteurs de l'information ont une responsabilité majeure dans les récits qu'on peut nous mettre dans la tête, que ce soit des récits du réel, comme les récits fictionnés, comme la publicité. C'est les trois types de récits qui existent aujourd'hui. Et sur le réel, j'avais envie d'avoir une prise, en fait, pour raconter ce que moi je voyais, ce que moi je vivais, et de mettre en avant des gens qui, tous les jours, passent leur vie à transformer la nôtre à bas bruit, en fait. Donc les professeurs, les infirmières, parler du handicap, parler de tous nos sujets, en fait, dont vous parlez ici tous les jours avec les gens que vous recevez ici. Et ben, j'ai pas trouvé beaucoup d'écho. Je vous cache pas, dans les rédactions. Et encore une fois,
Pourquoi ? Parce que ça... C'est pas cliquable,
bah oui, parce qu'en fait, même déjà à l'époque en 2016-2017, on était rentré dans une économie des médias qui était extrêmement liée en fait à l'audience. Partant du principe que l'audience ne s'agrège qu'à partir du moment où les sujets sont putassiers, où les sujets sont sensationnalistes. Alors que la réalité, c'est qu'on le voit bien, c'est qu'il y a vraiment une offre et une demande très claire de la part des Français pour avoir des représentations qui soient équilibrées. On ne parle pas de faire le journal des bonnes nouvelles, parce que la réalité, c'est que les nouvelles, elles ne sont pas toujours bonnes. Simplement, il faut être capable de nuances, il faut être capable aussi de rééquilibrer ces plateaux-là. Tout n'est pas toujours noir. Il y a beaucoup plus de trains qui arrivent à l'heure, heureusement d'ailleurs, que de trains qui arrivent en retard.
Après, il y a des journaux comme So Good qui...
Oui, bien sûr. Heureusement, bien sûr. So Good, le Média Positif. Vous en avez plein, mais en fait, comme s'il y avait une ligne édito plus, ouais, c'est génial. Un monde à part, en fait, une réalité parallèle, un peu comme dans Stranger Things, quoi. Vous avez l'upside down, voilà. Et bah, non, le monde il est composé comme ça, avec des choses extrêmement positives dont il faut parler qui permettent de rééquilibrer justement le côté négatif. Donc, je me retrouve donc chez BFM. Je trouve pas d'écho dans les sujets que je mets en avant, donc. Comme d'habitude, qu'est-ce que je fais? Ben, je monte une entreprise, parce qu'il faut bien... C'est par défaut, à chaque fois que je monte des boîtes, c'est parce que je trouve pas ma place. Donc, je monte une boîte de production audiovisuelle, et puis je signe, par chance, 3 séries documentaires pour France Télévisions, dont une qui raconte la formidable aventure d'une classe de CM2 à Poissy, en réseau d'éducation prioritaire, qui fédère 310 élèves de 10 pays d'Europe, 15 classes, 27 profs, pour écrire la première déclaration européenne des droits de la planète et du vivant. Partant du principe que les enfants ont des droits, les hommes ont des droits, et comme j'arrêtais pas de leur seriner qu'on était en interdépendance avec le vivant, l'un des élèves me dit, bah Elsa, si on est en interdépendance, il faut aussi que la planète ait des droits. Donc j'ai coordonné l'écriture de ces 18 articles, faits par ces 310 élèves de Polynésie, d'Allemagne, du Portugal, d'Espagne, de Suède, etc., que nous sommes allés porter le 27 novembre 2019 au Parlement européen à Strasbourg. Et sans que nous le sachions, c'était le jour de l'investiture d'Ursula von der Leyen. Donc l'hémicycle était rempli, et puis on avait, voilà, j'avais fait venir une délégation de 60 de ses enfants qui représentaient les 310. Et à ce moment-là, Arnaud, bah, j'ai senti que c'était ça qu'il fallait que je fasse, en fait, qu'il fallait que je crée des brèches, que je fasse entendre la voix de cette jeunesse, que je fasse entendre la voix de ceux qui avaient envie de transformer les choses, ces 27 professeurs, et que mon impact, il était vraiment à cet endroit-là. Donc j'ai laissé tomber la production audiovisuelle, parce que c'était une tannée pour moi d'expliciter que je voulais promouvoir des projets de ce type-là. Et puis j'ai cherché un endroit où tout ce que j'avais fait depuis 20 ans, donc en l'occurrence du marketing digital dans les grands groupes, l'entrepreneuriat, le journalisme, savoir raconter des histoires, allait pouvoir être au bénéfice d'une organisation qui était calée en termes de valeurs sur la mienne. Et c'est comme ça que j'arrive chez Ashoka, où je vois une offre d'emploi sur LinkedIn. Vraiment le truc assez basique, quoi, on s'y attendrait pas. Je clique et puis je passe 14 entretiens, 7 mois de process, parce que c'est vraiment une grosse organisation. Et je me retrouve à la tête de cette, la branche française de cette ONG, qui est historiquement, je dirais, le fondateur du terme entrepreneur social, donc qui semble être parfois un oxymore. Est-ce qu'un entrepreneur peut être social? La réponse est qu'un entrepreneur, pour moi, doit être social de toute façon. Et donc ça me permet aussi de toucher du doigt une immense communauté de près de 4000 personnes dans 93 pays du monde, qui sont souvent de grands innovateurs de politique publique. Et en France, ils sont 90 aujourd'hui, et la branche française existe depuis une vingtaine d'années. Donc on accompagne, on identifie, on finance ces hommes et ces femmes qui participent à la transformation de la société, qui sont dans ce grand projet qu'a Ashoka, qui est la transformation de nos modèles de société pour favoriser un monde juste, durable et équitable pour tout le monde, quoi.
J'ai une question un peu provoque, mais...
J'aime bien ça.
Oui. Après, le monde actuel, on est quand même dans un schéma avec deux visions de société assez différentes.
Ouais.
Une qui essaye d'embarquer une autre et une autre qui essaie de résister à la première. Ma question, elle est dans votre parcours. On a le sentiment quand même que c'est un parcours un peu privilégié.
C'est la vraie question.
Il est un peu privilégié. Et pour ce que vous citez, les médias avec lesquels vous avez travaillé, ça paraît pas, c'est pas un parcours commun, c'est pas un parcours assez extraordinaire. Est-ce que pour une personne qui n'a pas eu soit cette chance, mais peut-être que c'est pas une chance, vous allez pouvoir me... Mais qui a pas cette position-là et qui se dit, ok, mais en fait, c'est une montagne, en fait, d'aller vers ça. Et j'ai pas forcément envie, moi, que mon engagement, ça soit juste d'aller au CCAS de mon village. Qu'est-ce que vous leur diriez à ces gens-là? quel est le logiciel qu'il faudrait qu'ils mettent en place, c'est quoi les 3 ou 4 clés qui permettent, au-delà de l'engagement, parce que vous avez un parcours dans l'engagement, mais avoir un parcours de l'engagement qui est extraordinaire et qui s'aligne entre le perso et le pro. Ce serait quoi, en fait, votre synthèse ?
Déjà, je reprendrais le fait que je vais avoir 50 ans. Donc, c'est quand même 25 ans de vie, hein, ce que je raconte là. On a l'impression, comme on a une heure, que tout s'est passé très vite et que j'ai commencé hier. Non, c'est vraiment un parcours qui est assez long. Je reviens sur le côté privilégié. Alors, évidemment, quand on est là pour compter les points à la fin du match, effectivement, on oublie tout l'entraînement qu'il a fallu pour arriver à ce niveau-là. Et puis moi, ça n'a jamais été facile. Mon réseau, je l'ai construit toute seule. Je ne dois rien à personne. En tout cas, c'est au gré de mes rencontres et du travail que j'ai pu produire. Et puis, c'est vrai que naturellement, je pense que j'ai une force de conviction, sans doute, et que je suis assez, même pas assez, je suis clairement loyale et que ça crée de la confiance avec les gens qui m'entourent et qui me donnent de plus en plus de moyens pour faire les choses et que ça se construit comme ça. Et que maintenant, mon objectif, c'est de transmettre.
Et donc je coupe les là-dessus parce que c'est exactement ça. Ouais. Loyal.
Oui. Intègre.
Intègre.
Clairement.
Convaincu.
Convaincu et convaincante. Mon intégrité m'a souvent joué beaucoup de tours. Notamment en entreprise, puisque j'étais considérée comme n'étant pas politique, puisque j'ai tendance à même physiquement, ça se voit. En fait, j'ai un niveau d'expression sur le visage qui me trahit souvent sur ma façon d'être d'accord ou en désaccord avec les gens. Et puis parfois d'avoir été certainement frontale aussi. Je me souviens de ma première boss quand j'ai fait mon stage en sortant de l'EM Lyon, qui m'avait dit « Écoute, vraiment, c'est génial, t'as un talent incroyable, mais arrondis ta communication quand même. » Et vous voyez, ça m'est resté 25 ans après. Et je crois que j'ai pas beaucoup arrondi ma communication. J'ai juste appris à savoir pourquoi je disais les choses plutôt que de les ressentir. Et donc d'accompagner ça d'arguments qui sont, que j'estime parfois, moi, imparables. Et puis de faire fi avec le temps des gens qui, voilà, avec qui je perds du temps à essayer d'expliquer quand d'autres gens, peut-être moins bankable sur le papier, vont apporter beaucoup plus de choses parce qu'on va être en phase, en fait. Donc voilà. Alors après, ce que je dirais en synthèse, faut surtout pas faire comme moi. Enfin, je veux dire, non, mais au sens où c'est beaucoup de concours de circonstances, la vie, vous le savez, ce sont des rencontres, c'est des curiosités, c'est de la gourmandise, c'est des traumas perso, générationnels, qui font qu'on est aussi comme ça. Moi, je peux pas faire autrement qu'être comme je suis, mais c'est pas pour autant que je suis un rôle modèle, et je déteste ce terme de rôle modèle qui voudrait faire en sorte que tout le monde doit ressembler à quelqu'un, mais surtout pas. En fait, prenons un bout d'Arnaud, un bout d'Elsa, un bout de plein de gens, et c'est comme ça, en fait, qu'on commence à être véritablement quelqu'un qui se ressemble. Et puis, trouver son alignement aussi personnel, quoi. Ça, pour moi, c'est fondamental. Souvent, on se dit, bah voilà, quelle cause on va prendre. Bah, en fait, faut prendre une cause qu'on comporte en soi, et c'est pas pour autant que on doit être non plus touché par le cancer à titre personnel pour s'engager pour une association qui milite pour les droits des patients. On doit pas avoir 50 chiens chez soi pour devenir absolument défenseur des droits des animaux. Je crois qu'il faut jouer sur notre empathie, il faut au maximum s'ouvrir aussi à ce qui se passe autour de nous. Et puis, une cause, en fait, nous permet de voir aussi qu'elles sont liées à toutes les autres. Donc, quand on agit à un endroit, de toute façon, en embrassant cet endroit clairement, on va avoir une répercussion sur le reste. Et c'est ça qui est important.
Ça, c'est vraiment clé.
Ah, pour moi, je pense. Je suis contente que vous soyez d'accord.
Non, mais je vais l'illustrer par un exemple un peu personnel. Je le fais rarement dans les interviews, mais celui-ci me touche en particulier. Mais avant de le raconter, c'est... Je pense que la réponse que vous avez donnée, la question que je voulais poser, parce que quand on écrit ça,
ouais,
et quand le message, il se dit de s'engager, c'est intéressant d'aller creuser un peu, ouais, et d'offrir aux gens certaines clés. Et vous les avez données. Et moi, ce que je retiens, alors l'alignement personnel, c'est un schéma de vie, hein, c'est compliqué à atteindre. Mais ce que j'entends surtout, c'est ne pas lâcher et entendre, mais en même temps avoir la peau assez lisse pour que ça glisse,
ouais.
Voilà. Et puis je crois que tous les gens qui sont, que ce soit des entrepreneurs ou des activistes ou des gens qui sont engagés, quel que soit le sujet, à un moment, forcément, ils n'ont pas été lisses, donc ils se prennent ces réflexions-là. Et il faut tenir.
Ouais.
C'est un peu ça, je peux le résumer comme ça.
Oui, et puis mon père m'a toujours dit un truc, il me dit « il n'y a rien de pire qu'avoir raison trop tôt ». parce qu'on essuie un peu les plâtres et c'est pas évident. Mais oui, il faut tenir et puis tenir parce qu'en fait, c'est être vivant, c'est une responsabilité aussi. C'est une responsabilité vis-à-vis du monde, tout simplement, vis-à-vis de la société. C'est une chance immense, en fait, cette expérience de vie plus ou moins courte, quelle qu'elle puisse être. Donc, dans les circonstances qui sont les nôtres, en tout cas, là où je suis privilégiée, pour revenir sur ce terme-là, c'est que je suis en bonne santé, j'ai fait énormément de choses dans ma vie, et c'est ce privilège-là que je dois mettre, en fait, au service de l'intérêt général, parce que, en fait, 80 ans, à l'échelle du monde, c'est rien. Donc, autant que ça se passe bien et autant que la trace qu'on puisse laisser nous permette de faire avancer ce qui arrive ensuite. Vous voyez, quand je parlais des grandes figures de l'engagement, pourquoi c'est écrasant? C'est écrasant parce qu'en fait, on identifie, on personnifie, on surincarne avec des individus. Mais Martin Luther King, il a bénéficié aussi d'énormément de travail qui a été fait avant lui, pour pouvoir justement être au bon moment, au bon endroit, pour pouvoir faire infléchir les droits civiques, quoi qu'on pourrait en parler aujourd'hui, des droits civiques aux États-Unis. Hein, le pauvre Martin Luther King, il doit vraiment pas se sentir très bien au fond de sa tombe. Mais la réalité, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est comme Marie Curie quand elle découvre le radium et qu'elle en fait, voilà, qu'elle l'utilise. Enfin, en tout cas, c'est l'utilisation du radium pour découvrir ce qui se passe dans le corps. Avant elle, il y a Becquerel, il y a tout un tas d'autres scientifiques. Donc c'est pour ça que ce passage qu'on a sur Terre, il doit vraiment être profitable pour l'ensemble des gens qui nous entourent. Et le privilège qu'on peut avoir parfois, comme le mien, c'est ça. C'est d'être en bonne santé, connaître un peu de monde maintenant, après 25 ans de vie professionnelle, et puis essayer de les faire changer pour qu'on soit de plus en plus nombreux du côté de ceux qui pensent que les 80 ans qu'on a doivent être au service des autres et pas à son propre service.
Alors, je garde en tête ce que je vais... Le point qui est de dire, on commence l'engagement aussi par une forme de curiosité et aller sur des endroits qui sont pas forcément ceux qu'on a vécu. Je le garde.
Et une indignation, Arnaud. Je pense qu'il y a la curiosité et s'indigner sur un truc. Okay. Il y a quelque chose que je raconte dans le livre qui est quand j'avais 9 ans, moi, ça a été vraiment un choc terrible. Je sais pas si on est de la même génération et si vous vous souvenez de ce moment-là. C'est Omaira Sanchez, cette jeune fille qui se retrouve coincée suite à l'éruption du Nevado del Ruiz, ce volcan en Amérique latine, et elle se retrouve coincée et tous les soirs, pendant 3-4 soirs, le journal de 20h ouvre sur cette jeune fille qui est là avec de l'eau saumâtre jusque sur le menton et qui appelle sa mère en pensant qu'on va la sauver, etc., et qui meurt en direct. C'est la première fois, j'ai 9 ans, que je constate ça, et moi je suis en train de manger mon plat du soir en regardant une jeune fille qui a peu ou prou mon âge et qui est en train de mourir devant moi avec des billes noires incroyables, et là je suis dévastée. Et je ne comprenais pas, gamine, qu'on ne mette pas des grues, qu'il n'y ait pas des gens qui l'attirent, parce que je n'avais pas conscience qu'en fait elle était enchevêtrée et que c'était de toute façon malheureusement perdu d'avance. Et ça a été ma première indignation personnelle très forte. En fait, j'ai pleuré toute la nuit en me disant, mais. Et là, je me suis sentie privilégiée. Me dire, mais pourquoi c'est pas moi, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça lui arrive à elle? Et surtout, que font ces gens autour qui filment plutôt que de lui tendre la main? Et cette révolte, en fait, elle m'a jamais quittée, en réalité. Donc, ces moments-là, ils sont aussi assez fondateurs quand on parle de la curiosité du monde, mais c'est aussi s'interroger sur les conditions de chacun et s'indigner.
Et accepter de s'indigner.
Et au contraire.
Très bon livre là-dessus.
Encourager l'indignation, évidemment, et parfois même, pour moi, plus que la colère. Je préfère l'indignation à la colère, parce que je trouve que la colère, parfois, elle, même si on a besoin de nos émotions pour s'engager, elle peut être beaucoup trop auto-centrée, la colère, alors que l'indignation, pour moi, elle a une résonance beaucoup plus collective.
Il y a créé un mouvement aussi.
Oui, et puis souvent, on s'indigne pas pour soi, on s'indigne pour les autres. Et alors que la colère, on est plutôt en colère, parce que ça va réveiller quelque chose de très fort chez soi, ça va chercher quelque chose chez soi, et il peut y avoir un petit côté, en tout cas de mon point de vue, un peu plus égocentrique.
Mais je pense que ceux qui nous écoutent ont tous à un moment, là, petite pause, respiration, vous avez tous à un moment cette forme d'indignation qui doit vous revenir. Personnellement, moi, ça a été cette photo de ce petit garçon... exactement, sur la plage, qui a provoqué vraiment quelque chose d'effroyable. Personnellement, qui m'a engagé sur un certain nombre d'actions. Ouais. Donc cette indignation saine, est-ce qu'on peut dire ça?
Bien sûr qu'elle est saine. Bah, à partir du moment où elle joue sur l'empathie et qu'on ne comprend pas et qu'on se met à la place de la personne qu'on voit en face de soi et du monde dans lequel on vit, Bah, quand je disais que la vie, c'est une forme de responsabilité, c'est ça, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire moi à l'endroit où je suis pour que ce genre de choses n'arrive pas en réalité. Et Aylan, c'est intéressant que vous preniez cet exemple. Moi, je me souviens très bien parce que j'étais chroniqueuse au maternel à ce moment-là et c'était quasiment au moment de la rentrée des classes, si je me souviens bien. Et moi, je nous voyais, je me vois prendre des photos de mes enfants avec leur cartable sur le dos, comme la rituelle photo de la rentrée, et avoir celle-ci en parallèle, se dire mais en fait, ce gamin. Il n'ira jamais à l'école et c'est insupportable en fait de voir ce genre de choses. Le problème qu'on peut expérimenter aujourd'hui, c'est que dans la société dans laquelle nous sommes, avec l'immédiateté de l'information, malheureusement, une information en chasse une autre. Et on voit bien depuis une dizaine d'années que c'est arrivé. Vous voyez bien la manière dont les migrants et le drame des migrants est traité dans les médias aujourd'hui. Exactement. Et c'est ça, c'est aussi ça qui doit être une indignation pour nous. Ça ne doit jamais être. En fait, commun. Ça ne doit jamais être une petite musique d'ascenseur qu'on entend de temps en temps et qu'on voit entre la poire et le fromage quand on regarde le JT de 20h. C'est inacceptable, comme beaucoup d'autres choses qui se passent aujourd'hui, comme le Groenland, comme on pourrait citer tout un tas d'exemples qui sont quand même assez démentiels.
Qu'est-ce que je peux faire ?
Ah, mais on peut faire énormément de choses. La première, c'est évidemment, si on décide de pouvoir s'engager auprès d'une association, se renseigner auprès d'elle, apporter son mécénat de compétences quand on est salarié, c'est-à-dire qu'on a tous des compétences. C'est-à-dire, l'engagement auprès d'une association, ça peut être prêter main forte au Resto du Cœur pour aller servir des repas, parce que c'est un peu ce qu'on a aussi en tête quand on parle d'engagement auprès d'une association, comme faire des maraudes auprès des sans-abri. Bien sûr, ça c'est fondamental parce que là on traite l'urgence et on voit concrètement le résultat de ces actions immédiatement. Et puis s'engager dans une association, c'est aussi aller voir son entreprise quand on est salarié et dire bah voilà, moi une journée par semaine, je veux, comme je suis comptable, j'ai une formation de comptable, je pense que mon expertise elle peut servir à telle ou telle association qui va avoir besoin de se structurer aussi avec des compétences que parfois elle peine à acquérir, soit parce que bah voilà, c'est quand même un milieu qui paye beaucoup moins que le milieu de l'économie capitaliste, dont je parle d'ailleurs dans le livre. Donc il y a un vrai sujet de faire remonter aussi ces salaires et d'éviter d'avoir le même niveau de TVA pour les associations que les entreprises, parce que ça plombe de 20% déjà une partie du budget, d'avoir des charges patronales qui soient différentes aussi, parce que quand on est au service de l'intérêt général, bah, on ne peut pas avoir les mêmes charges, sinon ça grève d'autant plus le budget pour les actions des associations. Donc en tout cas, ce mécénat de compétences qui est de prêter main forte avec une défiscalisation autorisée par l'entreprise parce qu'elle dépêche son salarié un certain nombre de journées pour qu'il puisse faire profiter ses compétences d'une association, c'est aussi une façon de s'engager. Et puis après, il y a la philanthropie. Puisque vous n'avez ni le temps, bah peut-être que si vous n'avez pas le temps, il y a quelque chose que vous avez, de l'argent. Et donc, on peut contribuer de manière assez évidente à tout un tas d'associations avec la loi du mécénat en France qui permet d'avoir aussi une défiscalisation relativement intéressante. Donc, il y a plein de moyens de s'engager.
Ce qui est là aussi un sujet assez d'actualité.
Ouais.
Parce que sans revenir sur toute l'origine de la situation actuelle, il y a eu des coupes budgétaires qui ont été faites et provoquées aux États-Unis sur un certain nombre d'une immense organisation. Mais en fait, ça serait trop facile de taxer les États-Unis du malheur du monde, puisque beaucoup d'États se sont engouffrés dans la brèche et qu'aujourd'hui, on voit que c'est un système d'ensemble où chacun utilise un peu ça en se disant « bon, moi non plus ». Et donc là, il y a une énorme crise sur les dons, sur le flux d'argent, sur les organisations. Ouais. Et là, il y a un rôle nouveau aussi à jouer sur les philanthropes. Et les philanthropes, c'est pas forcément des gens extrêmement riches.
Alors non, bien sûr que non. D'ailleurs, on le voit en France. De toute façon, philanthrope, à la base, c'est aimer l'humain. Donc, c'est pas forcément lié à l'argent. C'est devenu lié à l'argent.
Merci de remettre cette définition.
Ce que je raconte dans le livre, c'est que quand j'ai cherché cette fameuse définition de l'intérêt général, donc j'ai cherché partout, Conseil constitutionnel, Conseil d'État, j'avais l'impression que quelque part, il y avait une espèce de définition, comme dans le Larousse, on irait intérêt général. Mais en fait, pas du tout. La seule définition opérante que j'ai trouvée, c'est l'article 238 bis du Code des impôts. Et voilà, et à chaque fois, ça provoque la même... Oui, bien sûr. Donc, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte que philosophiquement ou institutionnellement, on n'est pas capable de le qualifier réellement. En revanche, d'un point de vue financier, on est capable de lui donner une valeur. Donc, c'est pour ça que la philanthropie est devenue extrêmement liée à l'argent, parce qu'en fait, on parle de 66% de défiscalisation ou 75% suivant ce que vous donnez, enfin, les critères qui sont différents. Donc, ça raconte quand même quelque chose de notre société. Comment vous voulez ensuite impliquer largement ou donner une définition de l'intérêt général quand le seul levier potentiel reste l'argent. C'est pas étonnant qu'aujourd'hui on ait l'impression que l'intérêt général soit la synthèse des intérêts particuliers, alors que c'est pas du tout la synthèse des intérêts particuliers. L'intérêt général, c'est bien plus grand que ça. C'est vraiment, ça n'a rien à voir avec la synthèse de vos intérêts et les miens. Et finalement, celui qui est le plus fort finira toujours par gagner, ce qui est en train de se passer d'un point de vue géopolitique sous nos yeux. On a l'expression même de la négation totale de l'intérêt général avec quelqu'un comme Donald Trump qui, voilà, il n'a pas de pétrole, il va au Venezuela. Il n'a pas de métaux rares, bah, il va au Groenland. Puis c'est une partie de risque. On a l'impression d'être dans, voilà, une vraie partie de risque, alors que l'objectif avec l'intérêt général, c'est de jouer au Lego. C'est vraiment de construire brique après brique pour que chacun puisse avoir une maison qui soit suffisamment décente.
Et avec une vision.
Alors, moi, ce que je vois, c'est trois dimensions dans l'intérêt général, mais c'est difficile en 2026 de les percevoir parce qu'on est tellement dans un tourbillon permanent et une vitesse et une immédiateté. C'est un. Effectivement, vous avez raison, la question de la temporalité, elle est clé. C'est-à-dire que ce qu'on fait aujourd'hui, ben, on le verra pas. Mais c'est pas grave, c'est OK, parce que notre objectif, je vous le rappelle, les 80 ans qu'on a, ou 88 ans, c'est bon, pour que ce soit profitable pour la société dans son ensemble, pour être dans une forme de progrès. La deuxième chose, c'est l'espace, la notion d'espace. En fait, ce que je suis en train de faire, moi, peut avoir des conséquences à l'autre bout du monde. Mais il faut que j'en ai conscience, en fait. Donc ça aussi, donc le temps et la temporalité. Et deuxième chose, troisième chose, le collectif, autrui. C'est-à-dire que mes actions ne peuvent avoir un intérêt que parce qu'elles sont faites aussi en collectif et qu'elles impactent de toute façon d'autres personnes que moi. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Mais notre époque n'est pas tellement en phase avec ces trois paramètres, puisqu'en fait, on a l'impression qu'il y a une horizontalisation totale de la temporalité. On a l'impression d'être toujours dans la même journée. Bon, en gros, on dort parce qu'on est fatigué, mais bon, globalement, voilà. Les informations sont de plus en plus... créent un bruit aussi qui nous empêche de nous départir, en fait, de cet environnement-là. Et puis, en fait, comme c'est la prime aujourd'hui du fait du modèle économique néolibéral qui, en fait, nous pressurise depuis des années, c'est toujours la prime à l'individu. Je parlais des grands récits de l'engagement où on a valorisé qu'une personne. Bah, quelque part, on a joué aussi le jeu de la surincarnation et de l'homme providentiel ou de l'homme héros. Enfin, l'homme, ça peut être une femme aussi, hein, mais l'homme avec un grand H, ça peut être providentiel, héroïque, martyr, parfois, dans certains cas, qui nous montre pas, en fait, que tout ça dépend d'un collectif. Mais complètement. Et d'ailleurs, et même, je pense que nous, quand je dis nous, c'est-à-dire l'écosystème de l'engagement, faut aussi qu'on balaye devant notre porte, notamment, et on a eu malheureusement des scandales récents, en fait, qui nous ont bien montré que, voilà, on n'était pas départis de tout vice, si je puis dire, ou de tout crime, même. Si je prends la figure de l'abbé Pierre, qui a été plus qu'écorné et déboulonné de sa statue, voilà, il y a une introspection à faire, parce qu'il y a un écosystème aussi, parfois, qui a une forme de... Il y a une forme de gourouisation. En plus, c'est marrant, il y a le film de Pierre Niney, là, qui sort sur les gourous côté coach. Alors, mais on y reviendra.
On est, non, mais juste parce que j'espère que cette vidéo va
circuler. Le film aura fait beaucoup d'entrées.
On est en 2026, en janvier.
Oui, ouais, bien sûr. Mais donc, c'est intéressant. Mais c'est intéressant de voir qu'on s'intéresse aussi à ce champ-là du coaching qui, depuis quelques années, a explosé. Et l'univers de l'économie sociale et solidaire et de l'engagement a des figures emblématiques. Et c'est très ambivalent parce qu'il faut vraiment des gens qui fassent des percées et qui ont un leadership assez fort. Et pour autant, il faut qu'ils pensent systématiquement leur leadership comme étant un leadership éphémère. Parce que ce qui compte, c'est la cause et l'impact qu'on doit avoir au bénéfice de cette cause.
Alors ça c'est un autre sujet un peu, ouais. peu piquant.
Sensible.
Un peu sensible, un peu piquant. Sensible. Qui est en fait l'ego, la place de l'ego.
Ah oui.
C'est amusant parce que vous parliez de... On met des Lego, ben voilà, on va parler de l'ego, avec un apostrophe. Et cette place de l'ego, on la retrouve par exemple dans la philanthropie, on parle de l'ego-philanthropie. Ouais. Aujourd'hui, si j'ai gagné un peu d'argent, bon, hier, il fallait que j'ai une Rolex, aujourd'hui, il faut que j'ai ma fondation. Et c'est un vrai sujet, c'est parce que, à la fois sur l'ego-philanthropie, mais également sur des causes, des engagements sur lesquels je vais plutôt me centrer moi et me concentrer sur ma personnalité. Donc je vais être une star, je vais être reconnu là-dedans. Et ce serait mentir, vraiment, sincèrement,
bien sûr,
ce serait mentir de dire que c'est pas grisant, que c'est pas un fuel. Et il y a certaines personnes qui peuvent tomber dedans. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ce que j'en ressens, et dans ce que j'ai lu, il y a un petit mouvement personnel à faire sur son propre ego en se mettant non pas en bout de train, mais comme un maillon de la chaîne. Donc, et de se dire, OK, en fait, je fais ça pour permettre que demain, il y a un Martin Luther King, pour permettre que demain, il y ait des choses qui se fassent. Et ce pas de côté, c'est un confort voulu. C'est un vrai don, ça. On est en train de parler d'engagement, mais là, on est sur quelque chose qui on donne de soi.
C'est une super bonne question. Je ne sais pas si c'est un don, parce que si c'est un don, ça voudrait dire que bon, on peut difficilement. Non, c'est pas ça, mais que finalement, on ne peut pas l'acquérir. Et moi, j'aimerais qu'on soit en capacité de pouvoir acquérir ce que vous êtes en train de dire, Arnaud. Et en fait, il y a plusieurs choses. C'est qu'en fait, ce milieu nécessite forcément d'avoir de l'ego. Voilà.
Merci. Ça, voilà. C'est déjà important de le rappeler, parce que c'est
en tout cas quand on dirige. Voilà. Je veux dire, quand on incarne. Ça, c'est important d'avoir de l'ego. J'ai appris un truc en télé et ça me sert beaucoup. Et j'en parle aussi souvent à mon équipe. C'est qu'en fait, à mesure que son miroir, à mesure que son réservoir de narcisse se remplit, son réservoir d'empathie se vide. C'est-à-dire que ce sont des vases communicants. Donc, ce qu'il faut, c'est être toujours en capacité de pouvoir avoir un juste équilibre entre ces deux réservoirs. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait de l'ordre de l'empathie et qu'est-ce qui est de l'ordre, en fait, du narcissisme. Je l'ai appris en télé, pourquoi? Parce que, quand j'étais chroniqueuse au maternel, j'avais des enfants qui étaient en bas âge. Donc, quand on recevait des témoins qui vivaient des situations difficiles pour elles au moment où elles le vivaient, j'arrive pas avec la diversification alimentaire de mon enfant, il n'arrive pas à jouer, l'école, ça me stresse, etc. Quand vous vivez la situation comme ces témoins qui venaient, vous le ressentez et vous êtes vraiment dans une écoute. À partir du moment où vous commencez à étranger des voitures concernant ces thématiques-là, vous faites preuve d'un relativisme qui est hyper contre-productif, voire condescendant. Non, mais attends, qu'est-ce qu'elle entend en train de me dire? Elle n'arrive pas à faire manger des haricots verts à son enfant. Enfin, c'est bon, ça passera, quoi. Ça va. Sauf qu'en fait, quand on était dans la situation de cette personne-là, c'était un drame pour soi. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est extrêmement important d'être en alerte sur soi et de voir quand on commence à perdre son discernement par rapport à ce qu'on est en train de vivre et d'avoir toujours créé des relations de confiance autour de soi pour que votre entourage ne soit pas dans une forme d'obséquiosité vis-à-vis de vous pour continuer à entretenir cette espèce de pan qui se déploie en réunion d'équipe ou je sais pas quoi. Pour vous remettre en fait en disant bah là je suis pas d'accord là etc là. Donc c'est effectivement ça demande une forme de discipline que d'être en capacité d'accepter en fait non pas les critiques mais simplement les remises sur le droit chemin parce que le commun que vous avez avec les gens que vous travaillez c'est l'impact et c'est ça le sujet en fait et l'objectif c'est pas qu'il y ait un deuxième Martin Luther King. L'objectif, c'est qu'il y ait Arnaud Chéniaud qui prenne la suite de Martin Luther King. Enfin, je ne sais pas si ce sont vos ambitions personnelles, mon cher Arnaud, mais vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas qu'on fasse des rôles modèles. Non, c'est qu'on se nourrisse de ce qui a été fait avant, dans la contemporanéité du moment, avec les nouveaux enjeux qui arrivent. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'un leadership durable, c'est un leader qui doit se penser dans son éphémérité. Et moi, par exemple, ça fait un an que je me dis, mais qui, après moi, pourra choquer France? Et qu'est-ce que je veux laisser comme héritage? Est-ce que j'ai envie que la personne qui me remplace trouve la situation que j'ai trouvée quand je suis arrivée? La réponse est non. Je veux qu'en fait, qu'on accélère. Et qu'on parle de moi, qu'on parle pas de moi dans 5 ans, 10 ans, machin. Quelque part, c'est pas le sujet. Je sais que ceux qui sont très proches de moi ou ceux que j'ai pu nourrir dans mes différentes vies professionnelles. D'ailleurs, c'est marrant parce que la sortie de ce livre a suscité auprès des collaborateurs que j'ai pu former depuis 25 ans des reprises de contact. Et ils m'ont rappelé une Elsa dont je me souvenais pas en fait, mais que j'ai imprimé pour eux parce que leurs yeux m'ont vu d'une certaine manière. Mes collaboratrices, la vie de maman, les gens avec qui je suis partie tourner mes documentaires, etc. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Et peut-être que c'est facile de le dire aujourd'hui parce que je suis à l'aube de mes 50 ans et bon, bah j'ai un regard sur mon parcours qui est un peu différent, même si je pense que j'ai toujours 35 ans pour être très honnête. Non. Et c'est très bien comme ça, et pourvu que ça dure encore longtemps. Mais oui, il y a cet effort permanent, cette discipline à avoir, et encore plus maintenant, parce que c'est ce que je dis dans le livre, c'est très dur de pousser à l'ombre du grand arbre. Parce qu'en fait, les branches du haut, elles prennent toute la lumière, et quand on est au pied, parce qu'on est venu pour cette personne-là qui incarnait tellement de choses et qui était très charismatique, bah, on a un peu froid, en fait, tout en bas du tronc, même si on est à côté. Et c'est pas rendre justice aux causes qu'on défend que de penser comme ça. Donc oui, c'est difficile. Il y a des jours où j'ai envie de prendre toute la place. Bien sûr, je ne vais pas vous mentir, moi aussi. Je suis très contente d'être là, que vous m'interrogez, d'avoir écrit ce livre, etc. Mais il y a des moments où je suis tellement fière de voir aussi des collaborateurs gagner en confiance, gagner en compréhension, venir me challenger, me dire que en fait peut-être que cette façon de faire c'est pas la bonne. Je trouve que c'est ça qui est hyper excitant, de permettre à chacun de développer son pouvoir d'agir en fait.
Et le leadership éphémère, c'est très beau ça.
Ouais, un leadership durable doit se penser dans son éphémérité.
Ouais, ça c'est.
Bah oui, j'aime bien les contradictions permanentes. Le monde est pétri de contradictions, mais là je trouve qu'elle est plutôt.
Oui, mais on essaye de donner des clés justement pour cette forme d'engagement à notre niveau et au niveau de chacun. Et je trouve que ce que vous dites là est facilement intégrable au sens de finalement, c'est un peu la stratégie Strapontin. C'est finalement, je fais ma part et je pose ma brique. Et je passe le relais pour que d'autres puissent. Et le grand enjeu de l'impact, c'est un commun, c'est un collectif.
Bah oui. Et puis on le voit bien, notamment nous, chez Ashoka, c'est vrai qu'on accompagne beaucoup d'entrepreneurs sociaux qui parfois sont depuis 10, 15, 20 ans à la tête de leur association et sont en train de penser à la transmission. Et donc nous avons, en tant qu'accompagnateurs et financeurs, un rôle clé. En fait, à ce moment-là, parce qu'on n'a pas du tout envie que tout l'héritage, tout ce qui a été bâti, surtout quand il s'agit d'influencer les politiques publiques, disparaisse, parce qu'en fait, la personne qui a fondé l'organisation décide d'arrêter. Sinon, on n'est plus du tout dans de l'approche systémique, ce que nous défendons nous depuis le départ. Changer le système, ça prend parfois 30 ans. Dans le livre, j'en parle quand je parle de l'influence des lois. Vous voyez, quand on prend la loi E20 de 91, quand il s'agit d'arrêter de fumer dans les lieux publics, moi, je me souviens le tollé que c'était la France, pays liberticide, c'est horrible, etc. Regardez, 30 ans après, ça choque presque qu'on fume en terrasse aujourd'hui. Donc, il faut parfois 30 ans pour que les grands mouvements s'ancrent dans la tête. Donc, c'est pour ça que 30 ans, parfois, c'est pas une personne qui peut réussir à arriver à cet impact-là. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment fondamental de réfléchir aussi à comment on constitue son propre écosystème pour son propre impact et transformer profondément la société.
Deux derniers sujets, deux dernières questions, du coup. Une première, on va revenir un peu sur la notion d'économie, puisque en fait, toute cette idée d'engagement, parler des associations, en vérité, ça crée une valeur, valeur qui n'est pas toujours intégrée dans le PIB, voire qui n'est pas intégrée dans le PIB, qui, sans être mesquin, est assez gratuite au sens qu'elle elle profite aux entreprises largement. Sans pour autant avoir on a l'impression que c'est une contrainte, c'est une charge, alors que c'est quelque chose qui est, si ça n'existait pas ou si ça disparaissait demain, l'impact il serait direct sur les entreprises et sur le pouvoir d'achat, mais en général. Ça a un nom, ça, je crois. On appelle ça des...
Alors, nous, on essaie de travailler ce qu'on appelle les coûts évités. Ou les... Alors, moi, j'appelle plutôt ça les gains produits. J'essaie de toujours transformer positivement. C'est-à-dire qu'effectivement, le tissu associatif n'est pas mesuré dans ce qu'il apporte à la société. Le lien social, est-ce que ça se mesure aujourd'hui? Si oui, comment peut-on le mesurer? La limitation de la polarisation de l'opinion, le fait d'avoir une population qui est plus heureuse et donc forcément qui peut consommer. Enfin, il y a tout un tas de paramètres comme ça qui doivent rentrer en ligne de compte. Mais c'est surtout parce que tous ces champs-là, ils sont complètement invisibles. En fait, le PIB, à la base, c'est Timothée Paris qui le dit beaucoup mieux que moi, dans Ralentir ou Périr. Il a été décidé de manière, à la base, ça devait être éphémère hein, aussi. L'histoire du PIB, c'était simplement pour mesurer l'impact des politiques New Deal aux États-Unis, pour voir si elles étaient bénéfiques ou pas et voir la croissance justement du niveau du pays. On a gardé cet étalon partout dans le monde pour justifier de la croissance, enfin de la bonne santé ou du tissu économique d'un pays. Or, il n'a jamais pris en compte tout ce que vous étiez en train d'énumérer tout à l'heure. Et donc ça, c'est vraiment un parent pauvre aussi du tissu associatif qui fait qu'aujourd'hui, comme on est en train de vivre dans un moment de contraction de financement aussi bien de la part de la philanthropie, parce que l'État veut réduire le niveau de défiscalisation, donc ça veut dire qu'il va y avoir moins d'argent pour le même nombre d'acteurs, donc forcément, ça va faire des effets de bord qui vont être désastreux pour le tissu associatif. Et de l'autre côté, vous avez l'État qui n'a plus d'argent, donc qui va moins subventionner les associations. Donc, quand elles arrivent, il faut qu'elles soient en capacité de pouvoir prouver qu'un euro investi dans telle association, c'est 5, 6, 8 euros parfois d'économie sur la facture sociale. Quand je parle de facture sociale, c'est par exemple quand vous accompagnez un jeune pour du mentorat, un jeune des quartiers populaires, on va dire, qui, du fait du déterminisme social, aura peut-être moins de chances d'arriver à trouver un emploi. Eh ben, s'il a moins de chances de trouver un emploi, ça veut dire potentiellement un individu qui va être au chômage, donc chez France Travail, avec des minimums sociaux, peut-être aussi qui va être en dépression, donc qui va consommer des médicaments, donc sécurité sociale, etc., etc. Si vous agissez sur le mentorat pour faire en sorte que ce jeune-là soit inséré dans la vie active et le job de ses rêves, ou en tout cas qui développe ses compétences, et ben vous voyez, tous les coûts dont je vous ai parlé tout à l'heure, ben vous ne les avez plus. Sauf que jusqu'à présent, on n'a pas été en capacité de manière très claire et très pragmatique. C'est pour ça que l'associatif, c'est évidemment un choix de cœur, mais c'est surtout un choix pragmatique. La solidarité, c'est pragmatique dans une économie, en fait, aujourd'hui. Ben, tant qu'on n'est pas capable d'arriver avec nos beaux tableaux Excel ou nos beaux modèles ChatGPT auprès de Bercy en disant, en fait, vous ne rendez pas compte, mais si vous diminuez les subventions à l'endroit de cette association, bah voilà la facture sociale qui va être beaucoup plus importante derrière. C'est un élément dont je parle dans le livre, parce que ce dont on n'a pas parlé, c'est que ce livre, c'est aussi un programme. C'est-à-dire qu'à la fin, en troisième partie, vous avez une vingtaine de propositions très claires qui permettent de développer cette culture de l'engagement, notamment la création d'un institut d'évaluation de ces politiques publiques, donc on est carrément dans notre sujet là, pour pouvoir prétendre et de dire, en fait, la manière dont on calcule aujourd'hui le fonctionnement de l'économie doit intégrer tout ce que le tissu associatif évite sur la facture sociale.
Très précieux.
Bah, en tout cas, moi, je pense que c'est très précieux, mais il y a tout un tas d'autres mesures aussi. C'est-à-dire que il faut que nous puissions monter en compétence le tissu associatif sur ces aspects-là, pour vraiment ne pas être que dans un souhait de charité et de voir l'associatif uniquement comme préservation du lien social. Dans le livre, je dis que pour moi, le tissu associatif, il a trois rôles fondamentaux. D'ailleurs, 70% des associations du 1,2 million, 1,5 million d'associations qu'on a en France sont dans le secteur de la culture et dans le secteur du sport. Donc c'est le club de sport, le club de foot de mon fils, etc., qui sont fondamentaux dans justement la création de l'animation de la vie de la cité, les référents, etc. Vous avez une autre partie, ce sont les grands acteurs du médico-social ou qui vont venir en fait en lutte contre les défaillances des politiques publiques comme les Restos du Cœur, comme Emmaüs, voilà, comme la Croix-Rouge, comme Médecins du Monde. Et puis vous avez une petite partie du tissu associatif avec qui on travaille nous tous les jours, qui sont les innovateurs de politiques publiques. Quand vous prenez Marie Trélucane, qui a fondé Unicité il y a 30 ans, c'est elle qui est à l'origine de la politique publique du service civique en France. Quand vous prenez Laetitia Vasseur, de Halte à l'obsolescence programmée, c'est elle qui est à l'origine de l'indice de durabilité et de réparabilité des produits électroménagers en France. Quand vous prenez, à Frédéric Bardot sur les grandes écoles du numérique, par exemple, Moussa Camara sur l'entrepreneuriat dans les quartiers, tous ces gens-là créent des politiques publiques, en fait. Ils ne sont pas en palliatif de défaillance de politique publique. Donc c'est ça qui est aussi important de mettre en avant sur l'engagement et ce que ça revêt, en fait.
Une toute dernière question pour conclure.
Déjà ?
On fera une série B. Une toute dernière question pour conclure. On parle de beaucoup de l'engagement, on a parlé du don, on a parlé... Et à un moment dans l'échange, vous avez dit, vous avez exprimé à quel point ça nourrit, et à quel point ça fait du bien, en vérité, à soi-même. J'avais une petite anecdote, mais qui est très très courte. En vérité, un jour, je suis allé moi dans le CCAS de mon village, ouais. Et j'ai demandé à accompagner une vieille dame. Et au début, j'y suis allé en mode je vais te donner de mon temps, ça va peut-être m'embêter un petit peu. Et j'ai fait vraiment la rencontre de ma vie, ouais, avec cette femme qui est partie il y a quelques mois. Et elle m'a offert, et elle m'a nourri, et elle m'a transformé autant que j'ai pu le transformer. Alors que j'étais pas du tout sur le sujet du générationnel, c'était pas du tout mon point. Donc ça, c'est mon histoire perso. Pareil, je pense qu'on en a beaucoup là-dedans. Ce que je voudrais dire, c'est, est-ce que vous pouvez... Ça peut être un livre, ça peut être un conseil, ça peut être un book, ça peut être un film, ça peut être ce que vous voulez. Quelque chose que vous pourriez dire aux gens et qui pourrait les amener à faire ce pas, juste ce petit pas, pour découvrir peut-être une... Pas une indignation cette fois-ci, le plaisir aussi d'offrir et de recevoir.
Le livre se termine avec une épilogue où je raconte la réalité des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. L'année 2025, elle a été très dure, elle m'a pas épargnée à plein d'égards. Et en fait, j'avais envie de tout arrêter. Voilà, j'en avais marre de passer mon temps à m'indigner, de voir que ça avait assez peu d'effet. Et puis je pensais que l'engagement, c'était, ça pouvait être tonitruant. Il fallait, voilà, dans les conférences, asséner tout un tas de choses, comme certains qui nous regardent ont l'impression que c'est le cas depuis une heure. Et puis j'ai une de mes collaboratrices qui était gravement malade, âgée de 37 ans, dont je savais de toute façon que... Enfin, dont je savais... Donc, oui, je savais, sans l'intégrer réellement, que la fin, de toute façon, était inéluctable. Et donc, elle m'appelle le jour de mon anniversaire, en mai dernier, en me disant, voilà, j'ai décidé d'arrêter tous les traitements, et je voulais te le dire, et je te remercie beaucoup de m'avoir accompagnée comme ça pendant 4 ans, parce que tu as mis des conditions décentes. Enfin, bon, bref, l'idée n'est pas que j'ai une statue sur la place du village, mais en tout cas, moi, j'ai fait ce que je pensais être juste pour l'accompagner au dernier moment. Et ce qui est intéressant, Arnaud, c'est que l'image que j'avais de l'engagement à ce moment-là, c'était que forcément, il devait y avoir un effet très concret pour transformer les foules tout de suite maintenant. Et cette jeune femme, dans le dernier entretien que j'ai eu avec elle le 15 mai, elle est partie le 31, donc ça a été très vite, m'a permis de comprendre que l'engagement, c'était être là même quand on sait que rien ne fonctionnera. C'est accorder cette présence et cette présence à soi, au monde, par l'intermédiaire parfois de cas aussi douloureux et dramatiques que ça a pu être. Et j'ai été dans les cordes assez longtemps après cette histoire-là. Mais elle m'a fait réaliser à quel point nous étions chanceux d'être là et que la moindre des choses, c'était celle-ci. Donc ça, c'est mon anecdote personnelle, évidemment, qui est très émouvante encore pour moi, évidemment, très, très... Voilà, très sensible, et elle le sera très longtemps, mais je la remercie pour ça, parce que en fait, elle m'a mis une bonne baffe en me disant l'impact, en réalité, c'est celui que tu as sur les gens, et le reste, que ce soit grand, pas grand, c'est pas très grave, faut une présence très claire. Et après, s'il faut donner des conseils lecture, un seul, moi, mais faut lire tout Romain Gary. Mais tout Romain Gary, tout est bon chez Romain Gary, vraiment. Alors évidemment, le bouquin pour moi qui est phare, c'est Claire de femme, qui est le livre d'amour par excellence, l'amour universel, pas un amour sexualisé, l'amour universel les uns pour les autres, les cerfs-volants évidemment, et puis La promesse de l'aube bien sûr, mais vraiment, et surtout le dernier, qui est La nuit sera calme, qui est sa pseudo-autobiographie, qui est extraordinaire, qui est un jeu, puis une langue truculente, magnifique. Et cet homme montre que bah voilà, l'engagement, c'est une colonne vertébrale dans la vie, en fait, vraiment.
Finir sur du Romain Gary, c'est magnifique.
Bah, c'est top, j'adore.
Merci,
Elsa. Merci beaucoup, merci Arnaud.